Maintenant, il n'y a vraiment plus rien. Jésus seulement dans son berceau. Marie pense qu'il faudrait bien préparer le bébé. Marie va au berceau et le remue un peu pour réveiller le petit. Mais il gémit un instant, se retourne et continue de dormir. Marie caresse doucement les boucles de ses cheveux. Jésus ouvre sa petite bouche pour bâiller. Marie se penche et le baise sur la joue. Jésus achève de se réveiller. Il ouvre les yeux. Il voit la maman et sourit et tend ses mains vers son sein. Oui, amour de ta maman. Oui, le lait. Avant l'heure habituelle. Mais tu es toujours prêt à sucer ta maman, mon saint petit agneau. Jésus rit et joue en agitant ses petits pieds hors des couvertures, agitant les bras avec une de ses joies enfantines si charmantes à voir. Il appuie ses pieds contre l'estomac de sa maman, se courbe et appuie sa tête blonde sur son sein. Puis il se rejette en arrière et rit en saisissant les cordons qui ferment le vêtement de Marie et en essayant de l'ouvrir. Dans sa chemisette de lin, il apparaît très beau, grassouillé, rose comme une fleur. Marie se penche et, restant ainsi en travers du berceau dont elle se fait une protection, elle pleure et rit à la fois pendant que le bébé babille avec ses paroles qui n'en sont pas de tous les bébés et où on distingue nettement « Maman ». Il la regarde étonnée de l'avoir pleurée. Il étend la main vers les larmes claires qui sillonnent les joues de Marie et la mouillent en faisant des caresses. Puis, dans cette délicieuse attitude, il s'appuie de nouveau sur le sein maternel, se serre tout contre en le caressant de sa petite main. Marie baise sa chevelure, le prend, s'assied et l'habille. Voilà, le petit vêtement de laine est enfilé et ses pieds ont chacun des sandales minuscules. Elle lui donne le lait et Jésus suce avidement le bon lait de sa maman. Quand il lui semble qu'à droite il n'en vient plus qu'un peu, il s'en va chercher à gauche et rit, et ce faisant, il regarde par en dessous sa maman. Puis, il s'endort, la tête sur le sein de Marie, sa petite joue rose et ronde contre le sein blanc et arrondi de sa mère. Marie se relève doucement et le dépose sur la courte pointe de son lit. Elle le couvre de son manteau. Elle va au berceau et plie les petites couvertures. Elle se demande si elle doit prendre aussi le petit matelas. Il est si petit, elle peut le prendre. Elle le met avec l'oreiller près des objets qui sont déjà sur le coffre et elle pleure sur le berceau vide, pauvre maman persécutée dans sa créature. Joseph revient. « Es-tu prête ? Jésus l'est-il aussi ? As-tu pris ses couvertures ? Sa petite couchette ? Nous ne pouvons emporter le berceau, mais au moins qu'il ait son petit matelas. » Le pauvre petit qu'il cherche à faire mourir. Joseph ! Elle pousse un cri pendant qu'elle s'accroche au bras de Joseph. Oui, Marie, à le faire mourir. Hérode veut sa mort parce qu'il en a peur. Pour son pouvoir royal, il a peur de cet innocent, ce fauve immonde. Que fera-t-il quand il apprendra qu'il est en fuite ? Je ne sais, mais nous serons loin alors. Je ne crois pas qu'il se vengera en le cherchant jusqu'en Galilée. Déjà, il serait trop difficile de découvrir que nous sommes Galiléens et encore moins de Nazareth et qui nous sommes exactement. À moins que Satan ne l'aide pour le remercier d'être pour lui un serviteur dévoué. Mais si cela arrivait, Dieu nous aidera de son côté. Ne pleure pas, Marie. Te voir pleurer m'afflige bien plus que de devoir partir pour l'exil. Pardonne-moi, Joseph, ce n'est pas pour moi que je pleure, ni pour le peu de bien que je perds, c'est pour toi. Tu as déjà dû tellement te sacrifier, et maintenant tu vas te trouver sans client, sans maison. Combien je te coûte, Joseph ? Combien ? Non, Marie, tu ne me coûtes pas, tu me consoles, toujours. Ne pense pas à demain. Nous avons les richesses des mages. Elles nous aideront pour les premiers temps. Puis je trouverai du travail. Un ouvrier honnête et capable se débrouille tout de suite. Tu as vu ici. Je n'arrivais pas à en trouver du temps pour tout faire. Je sais, mais qui te guérira de ta nostalgie ? Et toi, qui te guérira de la nostalgie de la maison qui t'est si chère? Jésus, en le possédant, j'ai encore ce que j'ai eu là-bas. Et moi, possédant Jésus, je possède la patrie que j'espérais retrouver il y a quelques mois. Je possède mon Dieu. Tu vois que je n'ai rien perdu de ce qui par-dessus tout m'est cher. Il nous suffit de sauver Jésus, et alors tout nous reste. Même si nous ne devions plus voir ce ciel, ces campagnes et celle plus chère de la Galilée, nous aurions tout parce que nous l'avons, lui. Viens, Marie. L'aube commence à poindre. Il est temps de saluer notre hôtesse et de charger nos affaires. Tout ira bien. Marie se lève obéissante. Elle s'enveloppe dans son manteau pendant que Joseph fait un dernier paquet qu'il emporte en sortant. Marie soulève délicatement le bébé, l'enveloppe dans un châle et le serre sur son cœur. Elle regarde les murs qui l'ont abrité des mois durant et les effleure de la main. Bienheureuse maison qui a mérité d'être aimée et bénie par Marie. Elle sort. Elle traverse la petite pièce qui était celle de Joseph. Elle entre dans l'autre pièce. La propriétaire, tout en larmes, la baise et la salue. Soulevant un coin du châle, elle baise au front le bébé qui dort tranquille. Ils descendent le petit escalier extérieur. Il y a une première clarté de l'aube qui permet tout juste de distinguer les objets. Dans cette pénombre, on aperçoit les trois montures. La plus robuste porte les charges. Les autres ont la selle. Joseph s'applique à bien disposer le coffre et les paquets sur le bas du premier âne. Je vois empaquetés et posés sur le haut du sac les outils de charpentier. De nouveau, adieux et larmes, puis Marie monte sur son âne, pendant que la propriétaire tient Jésus à son cou et le baise une dernière fois avant de le rendre à sa mère. Joseph aussi monte en selle, après avoir attaché son âne à celui qui porte les bagages pour être libre de tenir l'ânon de Marie. La fuite commence pendant que Bethléem, qui rêve encore à la scène fantasmagorique des mages, dort tranquillement, inconsciente de ce qui l'attend. C'est la fin de la vision.